de ce premier récit qui a été fait de la culture mexicaine et en particulier de la culture artistique précoloniale au Mexique, donc la culture dite précolombienne. Et donc les fragments de ce texte ont été réorganisés visuellement, vous le voyez, à travers un travail de composition assez extraordinaire qui mêle le rouge et le noir et qui va comme ça réinventer complètement la mise en page et le rythme du texte à travers cette fragmentation et cette recomposition. Donc il s'agit dans un cas comme dans l'autre de réorganiser les matériaux qui témoignent de la culture de son pays, donc la culture aussi coloniale, la culture matérielle, l'industrie lourde qui est typique des États-Unis de cette période. Dans le cas de Rich, alors je reparlerai de Carl Rich tout à l'heure parce qu'il a directement collaboré, comme certains de ses sculpteurs, avec les chorégraphes. Le cas de Richard Serra, c'est sans doute le sculpteur qui, dans ce qu'on appelle le minimalisme, qui est un mot contesté mais qui néanmoins sert de repère en histoire de l'art, c'est sans doute Richard Serra qui a été vraiment, je dirais, le plus éloquent à propos de la danse et de la chorégraphie de son temps. Donc il arrive à New York en 1966 et il se rend compte que ce qui se passe dans le monde de l'art est beaucoup moins intéressant que ce qui se passe dans le monde de la chorégraphie à ses yeux. Donc il s'intéresse notamment au travail d'Yvonne Rainer, de Simone Forti. Il est clair que son rapport à tout ce qui est de l'ordre, de l'équilibre, du rapport à la gravité est très influencé par ce qu'on vient de voir, par Huddle. Peut-être vous connaissez ces pièces incroyables de Richard Serra où il assemble des matériaux et il les fait tenir en équilibre simplement par un travail de répartition du poids, parfois avec des effets de porte-à-faux assez vertigineux. Et ça, c'est un des aspects de son travail. L'autre aspect, c'est celui du processus. Donc, on voit ce rapport au poids, la manière dont il va mettre en évidence la manière dont le corps réagit au poids dans ce film. Et il va, donc, dès 1966, travailler sur la notion de processus et la notion de champ. Ce qu'il appelle la dispersion du champ, c'est-à-dire la capacité effectivement pour le sculpteur de ne pas occuper un espace, je dirais un périmètre contraint, limité, mais au contraire d'évoquer une étendue, d'évoquer quelque chose qui est plus de l'ordre de la topographie. Donc vous voyez bien ici qu'on est dans cette situation. Cette œuvre extraordinaire s'intitule « Arracher le plomb entre 1h et 1h47 ». Donc le titre de l'œuvre évoque déjà la dimension temporelle, c'est le temps qu'il a mis à en fait, arracher du plomb autour de cette surface pour créer ces lanières qui sont ensuite déposées autour de la sculpture. Le plomb est un matériau extrêmement malléable qui l'intéressait pour cette dimension processuelle, puisque quand on a installé l'œuvre, on a dû aussi la modeler d'une certaine façon. C'est un matériau qui peut, le public n'est évidemment pas invité à la toucher, mais elle prend une forme différente évidemment à chaque installation. Également, ce travail sur le plomb, on le retrouve dans une série de pièces roulées, comme ça, où il recrée des pièces, des formes cylindriques, mais à partir comme ça d'un feuilletage de plomb roulé. Une autre œuvre qui participe de cette idée de laisser vivre le matériau, de laisser la forme, disons, surgir du comportement naturel du matériau. Donc on retrouve cette idée d'un corps matériel qui se comporte de façon spontanée dans le rapport à l'inertie, le rapport à la masse et au poids. Cette œuvre s'intitule Slam Folded, qui est une œuvre en fait en caoutchouc composée de différents matériaux récupérés, qu'il a simplement plié, comme ça, enveloppé, et qui effectivement va trouver sa forme à partir du poids qui la tire vers le bas. Donc là encore, une sculpture complètement au sol, une sculpture suspendue, ce sont des manières de transcender complètement l'idée effectivement de la sculpture sur sol.